Les Mille et Une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue pour la nouvelle émission des Mille et Une Bulles sur radioprésencefijac.com. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de faire un spécial coloriste, parce que ça faisait un moment que j'avais envie de donner la parole aux coloristes, parce que c'est très important sur un album. Il faut un scénariste, il faut un dessinateur, mais il faut aussi un coloriste. Donc j'ai décidé de faire une interview croisée avec cette émission donc en deux parties. La première partie avec Michaël Olivier et la deuxième partie avec Vera Daviette. Donc d'abord, nous sommes en compagnie de Michaël Olivier. Michaël, bonjour, comment vas-tu ?
Eh bien, écoute, bonjour, ça va très bien, merci.
Merci d'avoir répondu à ma demande d'interview. En premier, que je pose la question à chaque fois, c'est dis-moi, quels sont les BD qui ont bercé ton enfance, s'il te plaît ?
Écoute, rien que de très classique, Astérix, Little Kevin aussi, beaucoup.
Ah oui, Coyote.
Qui a été, qui aura été d'ailleurs ma première collab, mais ça a bercé plus mon adolescence. Tintin, Lucky Luke, les Tuniques Bleues, pas mal de classiques du puits que ma mère avait en collection chez elle.
Et ça me fait penser un petit clin d'œil à l'ami Coyote qui malheureusement partit trop tôt.
Exactement.
Et c'est un grand monsieur que j'avais la chance de rencontrer, c'était un grand monsieur.
Absolument.
Donc voilà, on va parler donc de coloriste. Donc, ben là, ma question toute simple, c'est comment devient-on coloriste en bande dessinée ?
Alors, je ne saurais pas vraiment te dire, parce que moi, ça s'est fait totalement par hasard.
D'accord.
À une période de ma vie où j'étais en train de changer de métier, puisque je faisais à l'époque de la 3D et de l'animation. Et j'étais dans un studio qui a fini par, virer tout le monde parce qu'ils ont un peu fait faillite. Et à l'époque, donc, je ne savais pas tellement comment m'orienter. J'ai voulu présenter mon travail à quelqu'un qui pouvait juger avec un œil à la fois juste et qui n'écrirait pas que c'est pas bon si c'est pas bon. Mon parrain en fait connaissait Coyote à l'époque, j'ai été lui présenter mon travail et à l'époque en fait il cherchait un coloriste pour Little Kevin justement.
Ah, génial.
Et ça a démarré comme ça en fait, il m'a dit écoute, si tu veux faire un test, welcome, on fait le test. On a fait le test, ça a marché et puis 15 ans après j'y suis encore.
Ah, et qu'on mettra en matière avec Little Kevin de Coyote, j'avoue c'est top hein.
Oui, c'était Yoda qui te propose de prendre un sabre laser, tu dis oui tout de suite, quoi.
Ah oui, tout à fait, mais là j'avoue, c'est voilà. Génial. Et donc en fait, ton tout premier album colorisé, c'était ça en fait, c'était quoi, Little Kevin ?
Ça a été le tome 8 de Little Kevin, oui, tout à fait.
Et donc tu me dis, tu as 15 ans de carrière, j'ai vu donc que tu as notamment bossé, je dis vite fait, mais tu me dis pour Bambou, Stolette, Fugacia, Le Lombard,
absolument.
C'est tous les éditeurs que tu as eus, et... Oui. Dis-moi les albums que tu as fait depuis, là, enfin, les dernières années, tu vas pas dire les 15 ans, mais les quelques derniers albums que tu as colorisés.
Là, dernièrement, j'ai fait Lata l'année dernière, Lombard avec Thomas Legrain. J'ai travaillé sur Urbex avec Clark. J'ai travaillé avec Rodrigue sur différents albums pour une société d'édition qui s'appelle Réclame aussi. Mmh. J'ai fait Loser Jack aussi avec Michel Rodrigue. J'ai travaillé pour qui aussi. J'ai travaillé avec Denis Chetville sur Le Maître Chocolatier. Il y a quelques temps déjà sur Elle et sur deux albums d'IRS, donc avec Bernard Branquel. Pas mal de gens qui,
ouais, beau casting,
qui sont
ouais.
Passés. Avec Blose aussi, je travaille pas mal avec Blose en ce moment aussi chez Bambou.
Et alors justement une question, je vais jouer mon curieux, une question au niveau donc colorisme, un album à peu près c'est un dessinateur mais un an à le faire, donc comment ça se passe, tu reçois les planches à coloriser au fur et à mesure ou tu reçois vraiment l'album noir et blanc et tu coloris après ?
Alors, en général on les reçoit au fur et à mesure, il y a un premier envoi qui correspond à la première livraison de l'auteur et donc on a 10, 15, 20 planches et puis après c'est au fur et à mesure, ça dépend aussi des contraintes que peut avoir l'éditeur. Puisqu'on peut avoir des deadlines plus ou moins serrés, plus ou moins à long terme. Je sais que par exemple, l'ATA, on savait que, comme c'est un 125 planches, on avait à peu près un an et demi, deux ans pour le faire, donc il n'y avait pas de souci. Et puis là, tu vois, en ce moment, je travaille sur un album qui doit être fait pour la semaine dernière, et on y est encore, donc on est un peu plus à la bourre, mais et du coup, on est deux coloristes dessus, puisque il n'y avait pas la possibilité de le faire tout seul.
Oui, je me dis, oui.
Mais voilà, ça dépend beaucoup, en fait, des contraintes de l'éditeur.
Et donc, les journées de coloris, ça s'organise comment, en fait? Tu travailles comment?
Bah, tu te lèves le matin, tu te mets à ta table à dessin, en l'occurrence une Cintiq pour moi, donc un écran tablette, et puis tu peins un peu toute la journée. L'avantage, c'est que comme tu n'as pas de patron au-dessus, tu organises un petit peu ta journée comme tu veux. Donc moi, je sais que j'ai tendance à travailler assez tard. Je ne me mets pas forcément à travailler très tôt le matin. Et j'ai parfois aussi des pauses dans la journée, donc ça peut arriver après que je travaille jusqu'à minuit, 1h du matin pour rattraper le retard. Mais bon, ça, c'est un rythme de travail, tu le gères finalement assez bien et tu t'organises.
Oui, tu fais au gré de tes envies. Ouais. Ouais. T'as pas des horaires de bureau, je veux dire.
Absolument. Après, c'est aussi un gros travail d'autodiscipline parce qu'il faut que tu sois carré. Tu sais que tu dois faire tant dans la journée. Moi, je sais que j'ai à peu près un rythme d'une page par jour. Mm-hmm. Donc, je sais que dans la journée, il faut que je fasse une page. Si la page, elle prend 6 heures, ça prend 6 heures. Si ça en prend 12, ça en prend 12, quoi.
Et il y a une BD célèbre que tu aurais aimé coloriser? Ou travailler avec un auteur célèbre, pardon?
Il y en a plein. Je sais pas. Alors le problème en fait, c'est que j'ai un rapport un petit peu particulier. J'adore les auteurs qui font eux-mêmes leur couleur en fait. La plupart des grands auteurs que j'admire énormément, Guarnido, Le Droit, ce genre de personnes, font eux-mêmes leur couleur. Donc c'est vrai que je ne sais pas trop. Mais après en fait, c'est les rencontres. Ça tient beaucoup à des rencontres. Il y a des grands auteurs avec qui j'aurais aimé travailler, mais qui, par exemple, sont des gens qui sont peut-être pas forcément très accessibles humainement parlant, je veux dire. Et il y en a d'autres avec qui je me suis absolument éclaté et qui ont peut-être moins de succès, mais qui sont absolument géniaux et avec qui j'adore travailler. Donc, je suis plus sur l'humain, en fait, que véritablement sur le côté success story de la chose, quoi.
D'accord. Et par contre, quand tu colorises un album, c'est l'éditeur qui vient vers toi pour faire la demande ou c'est le dessinateur qui t'appelle en disant « j'aimerais que tu fasses les couleurs de mon album »
Un petit peu des deux, ça dépend. J'ai parfois l'éditeur qui m'appelle en me disant « voilà, on a un album avec tel auteur, je ne sais pas tellement comment on peut faire et est-ce que tu es dispo ?» Et voilà, on a besoin de faire ça. Ça, en général, on fait un test parce que la maison d'édition souvent fait un test avec 2, 3, 4 coloristes pour voir quel est le meilleur rendu et ce qui va le mieux avec la BD. C'est par exemple ce qui s'est passé avec Urbex dernièrement, enfin il y a 3-4 ans, où j'ai fait un test dessus et puis c'est moi qui suis resté. Et après, il y a des auteurs, une fois qu'on connaît les auteurs, souvent les auteurs aiment bien avoir un coloriste avec qui ils s'entendent. Comme c'est un couple, ça travaille un peu comme un couple, il faut se connaître, il faut savoir à peu près ce que l'un et l'autre a dans la tête, ce dont l'autre est capable. Une fois que ça marche, ça, c'est vrai que beaucoup d'auteurs aiment bien garder leur coloriste parce que il y a un côté tandem qui est difficile à casser et quand l'auteur doit changer de coloriste, c'est très vite, il va falloir que je trouve la bonne personne et c'est pas forcément facile, quoi.
Ouais, donc en fait, c'est surtout une histoire de feeling, en fait.
Oui, énormément. Très souvent, c'est une histoire de feeling. Le meilleur exemple, c'est encore une fois Urbex, avec qui j'ai travaillé avec Clark dessus. Et avec Clark, on s'est très bien trouvé, on s'est très vite compris facilement, et ça a très bien fonctionné. Pour pas trahir un secret industriel, mais je travaille sur la nouvelle série aussi de Thomas Legrain, la première collaboration. Ah, oui. Donc c'était l'ATA l'année dernière. Et en fait, on a bien fonctionné. C'était un petit peu compliqué au début parce que Thomas est très exigeant et a besoin d'avoir exactement ce qu'il a en tête sur les pages. Et donc, du coup, c'était pas forcément facile au début parce qu'on se connaissait pas bien. Mais une fois après que c'était lancé, ça s'est très bien passé. Et du coup, là, on travaille sur sa prochaine série parce qu'il a voulu que je reprenne la série derrière. Et donc, ça se passe un peu comme ça. Une fois qu'on se trouve, c'est un peu encore une fois comme un couple. Une fois que ça se passe bien et qu'on se trouve, on a envie de rester ensemble. Ouais.
D'accord. Alors, je suis en train de penser au niveau des couleurs. Je vais aborder le sujet que justement je voulais aborder. En fait, pour la plupart des gens, ne savent pas qu'il existe des coloristes, parce qu'il y a beaucoup des dessinateurs qui font leurs propres couleurs, ça c'est vrai, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas les faire. Et du coup, alors moi je suis le premier, j'avoue, c'est mon ressenti à moi. Je serais même pour qu'avec le coloriste, alors des fois c'est indiqué à l'intérieur, hein, avec, voilà, mais des fois j'aimerais que ça soit carrément mis sur l'album, avec marqué ben, tel scénariste, tel dessinateur et tel coloriste. Donc qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Est-ce que tu trouves toi aussi que cette profession elle est un peu, allez, on va dire, méconnue du grand public?
Elle est méconnue, elle est, pour tout dire, elle est un peu maltraitée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que le coloriste est quand même très important. On n'est plus du tout aujourd'hui dans les coloristes des années 80 où on savait que pour coloriser Gaston Lagaffe, il fallait le vert numéro 33, le bleu numéro 27, et on met celui-là et pas rien d'autre. Le coloriste, quand même, participe énormément à la narration maintenant, par l'ambiance, par la lisibilité. Souvent, il y a un énorme travail à faire sur la couleur pour rendre lisible une case, notamment quand il y a beaucoup de détails dedans. On participe à la narration. On peut travailler, par exemple, sur les éléments hors-champ, mettre un éclairage qui va arriver, éteindre certains personnages parce qu'ils sont peu importants, mettre en lumière d'autres, etc., etc. Et oui, il y a pour moi, le coloriste est un auteur à part entière, comme le scénariste et comme le dessinateur. Le problème, c'est que c'est les sous, hein, on va être très clair. C'est un intervenant aussi de plus dans les éléments économiques de la BD. Et intégrer le coloriste comme un auteur à part entière, ça veut dire le traiter comme un auteur à part entière. Et ça, les éditeurs, c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a des changements, il y a des petites inflexions. On a vu par exemple Bambou qui commence à rémunérer les auteurs, les coloristes sur un pourcentage comme les auteurs aussi. D'autres éditeurs commencent à en parler. Il y a pas mal de coloristes aussi qui aimeraient bien un petit peu être reconnus comme ça. Mais oui, ça reste encore une profession traitée un petit peu comme un exé, alors que on a quand même maintenant un travail d'auteur à part entière.
Mais justement, tu as 15 ans de carrière derrière toi, donc tu as senti un changement de mentalité ces dernières années ou pas spécialement?
Oui, ces derniers temps, je pense que, en fait, il y a un petit peu des initiatives un peu partout. On a eu par exemple, je sais que Santenac, par exemple, s'était battu pour que le coloriste de Goldorak apparaisse sur la couverture. L'éditeur avec qui je travaille, alors qui est plus une boîte de com, mais qui a un travail d'éditeur et avec qui je travaille donc avec Michel Rodrigue. Michel Rodrigue se bat aussi pour que je sois systématiquement sur la couverture des albums de chez Réclame, et il n'y a aucun problème, je suis dessus. Mais c'est encore difficile. C'est-à-dire que on sent qu'il y a une difficulté à partager un peu l'affiche. Il y a un petit peu ce côté comme ça. Encore une fois, c'est un intervenant en plus. Donc ça veut dire des droits d'auteur en plus, ça veut dire un nom en plus, ça veut dire une place en plus sur l'affiche, et c'est un petit peu compliqué. Mais je pense que c'est le mouvement naturel. À terme, il y aura ça de toute façon, enfin, c'est quasiment obligé en fait.
Honnêtement, j'espère que cette petite interview qu'on a eue donnera un autre éclairage sur ta profession, parce que comme tu l'as dit toi-même, c'est une profession. Et ça, franchement, j'y tiens. C'est pour ça, de toute façon, que je voulais faire une émission spéciale coloriste pour montrer tout ce qui gravite autour de la bande dessinée. Nous allons devoir conclure, mon ami Michael. Je te pose quand même, parce que je voulais quand même me poser deux petites questions de mon petit portrait chinois. Donc, ce sera un portrait chinois express, parce que je sais qu'il reste peu de temps avant de conclure la première partie. Donc, dis-moi simplement, si tu étais une couleur, s'il te plaît.
Eh bien, justement, je pense que je serais le noir.
Je m'attendais.
Je m'habille en noir. J'ai tendance à être. Je suis métalleux. Voilà, ça fait partie de l'univers un petit peu. Le noir fait partie un petit peu de cette galaxie-là. Mais j'aime à penser aussi que pour quelqu'un qui cultive le noir comme moi, j'ai fait comme profession d'amener de la couleur dans les yeux des gens. Et ça, c'est plutôt cool.
D'accord. Et pour conclure, parce que malheureusement ça passe trop vite en ta compagnie, si tu étais juste un héros de bande dessinée, actuel ou pas?
Un héros de bande dessinée, je crois que je serais Chacal de Little Kevin. Ah. Un, pour un hommage à mon grand frère, et puis deux, parce que ce personnage de Chacal qui est un espèce de père de famille un peu loufoque, mais en même temps extrêmement solide. Ça me plaît bien, en fait, comme idée, ça.
Joli mot de la fin. Je te remercie, Michael. Nous allons donc retrouver en deuxième partie. On va devoir retrouver, excuse-moi, en deuxième partie Vera Daviette. Donc, on va voir le côté féminin du métier de coloriste. Et nous te remercions beaucoup de nous avoir pris 5 minutes à nous accorder. Merci à toi.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Présence à Figeac 97.7.
Vous souhaitez réagir, jouer, communiquer, déposer une intention de prière ? Radio Présence met à votre disposition un serveur vocal au 0892 46 00 12.
34 centimes la minute.
Chaque jour de la semaine et à toute heure de la journée, téléphonez au 0892 46 00 12.
0892 46 00 12.
Le standard des auditeurs. Présence.
Et nous voilà de retour donc sur les Mille et une Bulles avec donc l'émission que je fais en deux parties cette fois, donc où j'accueille le métier de coloriste. Dans la première partie, vous avez entendu, c'était Michael Olivier. Et donc j'ai dit, tiens, ce serait bien de faire une deuxième partie avec une coloriste côté féminin pour avoir son ressenti elle aussi. Nous avons donc la chance d'accueillir Vera Daviette. Vera, bonjour, comment vas-tu?
Bonjour, bah écoute, ça va.
Mais merci d'avoir accepté l'interview du côté féminin de ce métier.
Oui, merci. J'ai vu à justement toi pour l'invitation.
Ah bien, avec plaisir. J'ai vu justement que donc dans mon ami Google, je me sers beaucoup de Google, j'avoue, et que tu as été dans le métier avec autodidacte. T'as pas eu de formation.
Oui. Explique-moi. Non, pas du tout. Et en plus, je suis arrivée vraiment sur le tard, quoi. Parce que moi, quand j'avais 18 ans et je devais choisir ma voie. Bon bah moi je voulais faire une école d'art parce que j'aimais bien ça, puis en plus j'étais pas trop mauvaise parce qu'au bac j'avais eu quand même 19, alors je sais bien que le bac ça veut rien dire, mais bon, j'avais eu 19 en dessin, je veux dire. Et ça remonte à une époque assez lointaine et qu'il n'y avait pas beaucoup d'opportunités à l'époque et qu'à l'époque on n'avait même pas encore internet, donc j'étais allée voir une conseillère d'orientation qui connaissait rien et qui m'a dit faut prendre une voie sûre, fais du tourisme. Voilà, donc et comme mes parents et moi on savait pas trop vers où se diriger pour faire de l'art et que ma mère était pas trop pour, j'ai dit bon allez c'est bon, partons dans le tourisme quoi. Et en fait, j'ai rencontré mon mari qui était dessinateur et c'est lui qui m'a dit, parce que je commençais à en avoir ras-le-bol de mes métiers de secrétaire à droite à gauche, qui m'a dit, pourquoi tu te lancerais pas vu que tu as toujours aimé ça, le dessin, l'art, tout ça, pourquoi tu te lancerais pas dans la BD, quoi, à faire coloriste. Et je lui ai dit, oh ben oui, pourquoi pas, et voilà, ça s'est fait comme ça.
Mais ça doit pas être évident quand même, c'est vrai, formation de base, bon, même si t'es doué en dessin, mais ça doit pas être évident quand même.
Ouais, non, ça a été un an de formation toute seule à la maison, déjà pour apprendre l'outil Photoshop, parce que je connaissais pas du tout.
Oui, déjà.
Et ensuite, j'ai appris tout doucement, toute seule chez moi, pendant un an, déjà en commençant par la phase à plat. Comment faire pour faire des aplats sans déborder du trait, alors que maintenant, bon ben voilà, pour n'importe quel coloriste, c'est la base et c'est archi facile, mais pour moi, au début, ça prenait une heure, quoi, pour remplir ne serait-ce qu'une ilu. Enfin, c'était un truc hyper compliqué. Et puis Louis m'a beaucoup aidé, hein. Louis, ça a été vraiment mon prof. Il m'a appris en fait tout ce qui est mise en scène et mise en lumière à travers une case de BD, quoi. Comment faire pour faire ressortir un personnage pour bien centrer l'action et éteindre les éléments qui sont pas primordiaux et pour centrer l'œil en fait sur l'action. Donc pour ça, il a été vraiment il m'a appris en fait les bases du cadre, quoi. Et ouais, il est vraiment heureusement que j'ai eu la chance de l'avoir lui, mais c'est lui qui m'a tout appris, quoi.
Alors justement, petit clin d'œil donc à Stéphane Louis, donc dessinateur entre autres, parce qu'il a pas fait que ça, d'Aqua Blue, non, c'est ton mari, oui.
Oui.
Et donc je lui fais un petit clin d'œil parce que pour les auditeurs, les auditrices qui s'en rappellent pas, je l'ai interviewé, donc il est disponible aussi en podcast.
Oui.
Et du coup, donc c'est facile en fait pour toi, j'ai l'impression de travailler avec ton mari, il y a pas de
ah bah oui,
de soucis.
c'est même l'idéal, quoi. Parce que je connais bien son dessin, déjà parce que j'ai commencé sur son dessin, lui, j'ai tout appris sur son dessin parce que Parce que voilà, c'était la facilité hein, bon, pour m'entraîner, pour m'exercer. Il me filait des ilus, des planches sur lesquelles je commençais à essayer de faire mes premiers pas, quoi, pour apprendre. Et puis après, il a été sympa parce que rapidement, il a fait du scénar et moi j'ai fait mes premières BD avec lui quand même, quoi. On a sorti nos premières BD ensemble, dont une qui a pas du tout marché, mais dont moi je suis très fière et que j'ai vraiment adoré, c'était Escobar le Maya, au Lombard, et qu'on a fait ensemble. Et puis voilà, oui, non, j'ai l'habitude, et puis maintenant je connais bien son dessin, donc c'est vrai que c'est évident. Puis lui, dès qu'il a fini une planche, il me la passe, comme ça je peux commencer tout de suite. On n'est pas obligé d'attendre que la fab de l'éditeur qui m'envoie la planche. Souvent il y a un petit laps de temps, là ça se fait de la main à la main, c'est beaucoup plus facile, quoi.
Oui,
Puis il me dit directement ce dont il a envie, voilà, fais ci, fais ça, puis moi je l'écoute, puis je suis ses instructions, quoi.
Au niveau des planches, oui, c'est vrai, c'est le meilleur délai, là. S'il est dans la pièce à côté, c'est rapide.
Bah oui, voilà. Puis dès que je fais une connerie, tout de suite, il me corrige, il me reprend, il me dit « Ah non, attends, là, tu pars dans la mauvaise direction, reva plutôt par là. » Puis voilà, quoi.
Et donc, parce qu'on parle de Stéphane Louis, du coup, c'est quels albums que tu as fait pour lui? Enfin, peut-être pas tous, mais c'est quels les derniers albums que tu as colorisés pour lui?
Alors on a fait ensemble. Alors c'est là que je vais avoir besoin de son aide, parce que alors moi je n'ai absolument plus de mémoire. J'ai un AVC il y a 2 ans et depuis je n'ai plus aucune mémoire.
D'accord.
Donc Louis, qu'est-ce qu'on a fait comme album ensemble? Mon perso poivreau, on a fait Mon perso poivreau chez Bambou. On a fait L'amour est une haine comme les autres, toujours chez Bambou. L'homme sans sourire, toujours chez Grand Angle, quoi, en fait.
Oui.
Youtubers avec Soleil, aux éditions Soleil, et Erotopia aussi chez Kenes, Escobar le Maya, donc notre première BD ensemble qui a été... Ah, Miss Diplaine aussi, on a fait un Miss Diplaine qui était le premier personnage, enfin qui est le personnage, qui est son premier personnage et qui est, dont les droits lui appartiennent, quoi, parce que c'est lui qui l'a créé. Oui, voilà, on a fait pas mal d'albums ensemble,
c'est bien,
hein, finalement.
C'est déjà très bien. Et à part justement cette collaboration, cette proche collaboration, tu as fait avec d'autres auteurs des albums?
Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attends, parce que j'ai plus de mémoire. J'ai fait Assassin's Creed avec le studio Lunac au Québec. Là, c'est Louis qui me souffle, je te le dis, c'est pour ça que je rigole.
J'imagine la scène dans la maison.
Rainbow Six aussi, avec une courte histoire sur Rainbow Six, avec les éditions Lunac. Attends, j'ai bossé aussi avec Alain Janol, plusieurs albums avec Alain Janol. Et Jérôme Félix. Attends, Louis, dis-moi des titres, parce que là, moi,
Oui, un ou deux, après, t'en mettes pas. C'est juste pour voir ce que t'as vraiment fait.
Dernièrement, j'ai fait aussi Sur la piste de l'Oregon avec Jean-Marc Rings.
Ah oui. Très belle.
Attends, faut que je sorte mon cahier, parce que sinon, je suis vraiment désolée, mais vraiment, j'ai un gros problème au niveau de ma mémoire. J'ai fait Les Diables Rouges aussi, chez Kenes.
Ah, mais toujours avec...
Des trucs récents. Hein.
Oui, oui, bien sûr.
Alors, attends. J'ai fait Les Petits Voyageurs de l'Art aussi, chez Kenes, en édition jeunesse. J'ai fait aussi pour DBO Notes Rim. C'est des bulles dans l'océan. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Aqua Blue.
Très bonne série, Aqua Blue.
Puis plein d'autres, mais franchement, j'ai tellement pas de mémoire, je suis vraiment désolée.
Oui, non, mais t'inquiète, c'était vraiment histoire de voir tes collaborations artistiques. Bah, par contre, là maintenant, je vais poser la question que j'ai posée tout à l'heure en première partie à Michael. Voilà, donc le métier de coloriste, pour moi, il est.
Oui.
Alors, je dirais. C'est pas qu'il est décrié, mais il est quand même assez méconnu, et c'est dommage, parce que pour moi, vous avez un rôle primordial dans un album. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, oui, tu trouves que le métier est méconnu? Tu trouves qu'au fur et à mesure des années, les mentalités ont changé? Dis-moi.
Alors, oui, je pense que c'est un métier assez méconnu, en fait, mais je pense que les choses commencent à changer. Déjà, parce que j'ai l'impression que le public, il est vachement intéressé par la couleur. Je vois le peu de fois où j'ai été en dédicace, les gens adorent voir les coloristes mettre en couleur les dédicaces. Les gens adorent ça, ça les passionne. Souvent, je voyais, j'avais un petit nombre de gens qui étaient... Enfin, il y avait comme des petites étoiles dans leurs yeux quand ils nous voyaient faire quelque chose. Alors, dans le métier, au niveau des auteurs, j'ai l'impression aussi que les mentalités changent beaucoup. Par contre, chez les éditeurs, ça commence à bouger, mais c'est très très long, quoi. Et c'est pas tous les éditeurs, quoi. Pour eux, on reste vraiment des exés, en fait. Hein. Mmh. Bon, cela dit, moi, ça me dérange pas qu'on me traite comme une exée, parce que c'est vrai que ça dépend avec qui tu bosses. Il y a des collaborations où soit le scénariste, soit le dessinateur est très... très directif en fait, mais sans aucune arrière-pensée négative. C'est-à-dire ils savent ce qu'ils ont dans la tête et ils donnent précisément ce qu'ils veulent voir, leur vision et ce qu'ils veulent avoir. Mais tu peux aussi travailler avec des gens qui, alors eux, te donnent carte blanche sur ce que libre cours à ton inspiration, ton imagination. Tu leur fais ta proposition, après tu sais, il y a toujours des allers-retours où on te demande des petites corrections de ci, de là, mais en fait ça dépend des collaborations, quoi. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question.
Oui très bien, mais par contre, tu trouves pas quand même ça frustrant, le manque de considération, ou tu fais avec?
En fait, si c'est frustrant, mais si tu veux, c'est peut-être parce que je suis plus toute jeune, mais là, j'abandonne un peu le combat, si tu veux.
Oui, je me doute, oui. C'est pour les générations à venir, on va dire.
Oui, voilà, pour les générations à venir. Moi, j'ai jamais eu des jobs, même avant, où j'étais très considérée. J'en fais mon parti, et puis... Je me bats plus pour ça. Ça. Je l'ai fait au début, j'avais envie de me battre pour ça au début, et puis maintenant... je sais que c'est important, mais moi j'ai plus l'énergie pour ça, si tu veux.
Oui, je comprends, mais c'est pour ça que je voulais. Voilà, j'ai eu l'avis de Michael tout à l'heure, j'ai ton avis maintenant, c'est impeccable. On va bientôt conclure, Vera. Je suis désolé, ça passe très vite.
Non, c'est rien.
J'ai juste, donc, comme je fais à chaque fois, alors Stéphane, Louis, la dernière fois, avait eu le gros portrait chinois, mais là, oui, j'ai juste trois questions de portrait chinois à te poser. Donc, oui, la question, bien sûr, cruciale pour moi, c'est si tu étais une couleur.
Eh bien, le noir.
Alors
ou
ça,
le
ça
marron,
m'étonne.
Ou le kaki, ou toutes les couleurs sombres.
Mais justement, Michael m'a répondu la même chose. Pourtant, vous n'êtes pas concerté, bien sûr. Mais c'est surprenant pour des coloristes, donc, qui sont habitués à manier les couleurs, que vous pensiez la couleur noire sombre. Pourquoi, en fait? Je ne comprends pas.
Eh bien, parce que... Je ne sais pas. Alors là...
C'est bizarre. Hein.
Je ne sais pas. Peut-être... Parce que en fait, bon, alors pour vraiment faire de la psychologie à deux balles,
vas-y.
Moi je te parle des couleurs que j'aime porter, hein, c'est-à-dire des couleurs assez sombres, des couleurs assez basiques, et c'est vrai que du coup c'est mes couleurs de choix de base, mais c'est en opposition à ma mère qui toute sa vie a eu des couleurs dans ses fringues archi-bariolées de toutes les couleurs. Moi, dans ma vie perso, j'aime bien les tenues plus sobres, plus sombres, plus voilà. Mais c'est vrai que pour la couleur, on est obligé d'utiliser un milliard de couleurs, et très très peu justement le noir ou les couleurs sombres. Alors c'est peut-être aussi le pendant du métier de coloriste, je sais pas.
Et donc la deuxième question, alors peut-être, je pense que Stéphane Louis écoute à côté, peut-être qu'il pourra répondre à ta place. Si tu étais une qualité.
Une qualité ? Une qualité. Moi je sais ce que j'ai comme qualité. Je pense que j'ai la persévérance.
Ah oui, pour se aider, c'est bien en plus.
C'est-à-dire que je fais. Quand j'ai un but, je fais tout pour atteindre ce but en fait. Oui, je suis persévérante.
Et l'effet inverse, avant de conclure l'émission, si tu étais un défaut ?
Un défaut ? Alors, si j'étais un défaut...
C'est pas évident. Bon,
j'en ai sûrement plein, mais alors je les vois pas. Louis, qu'est-ce que j'ai comme défaut?
Oula. On va rajouter des minutes peut-être, non?
Alors, c'est vrai. Un gros défaut, c'est que j'ai tendance, quand il y a une difficulté ou quelque chose vraiment qui me stresse, je fais l'autruche.
D'accord.
Je fais l'autruche.
Eh bien, on va...
Jusqu'à ce que j'ai plus le choix et que du coup je sois obligée de prendre une décision. Voilà.
D'accord. Mais écoute, c'est sur ces belles paroles qu'on va conclure.
D'accord.
Sur ça, en te remerciant d'avoir donné ton avis sur ce métier de coloriste.
Merci à toi. Hein.
Avec grand plaisir.
C'était vraiment sympa.
Ah ben écoute, ça m'a fait vraiment plaisir. Moi, j'ai eu monsieur et madame. C'est impeccable. Et donc, la prochaine invitée donc, sur les mille et une bulles sur Radio Présence Figeac, ça sera Romain Pujol.
Ah, super.
Voilà. Merci super, beaucoup, Vera. Super. Et on se recroisera une autre fois. Merci
ben,
à toi.
Marche.
Bonne journée.
Salut Chris.
Au revoir, merci Vera.
Bye.
Les mille et une bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.